Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
Hey, bonjour tout le monde, vous allez peut-être entendre des bruits de préparation dans le background parce qu'on est plusieurs en studio. On est plusieurs en studio parce que c'est nos un an, c'est une émission anniversaire, on est très excités.
Oui, Benjamin, on est vraiment content d'avoir autant de collaborateurs et collaboratrices à l'émission ce soir avec nous.
Ben oui, parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, en fait, on prenait le micro pour vous dire qu'on était en direct de Jojage, CIBL, un territoire Gayen-Gayaga non cédé, aussi appelé Montréal.
Je me rappelle encore quand on tremblait avec à la première émission. Là, on a beaucoup évolué depuis.
Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va commencer. On a une structure un peu inhabituelle à l'émission, mais on va commencer par un tour de table, en fait, pour présenter tout le monde très rapidement. Et on pourrait commencer par toi, Charlotte.
Oui, bien, c'est vrai. Mon moment marquant, je dirais mon moment dont je me rappelle le plus à l'émission, ça doit être l'émission spéciale sur la politique culturelle qu'on avait fait en plein été, justement, au mois de juillet. C'était une émission à laquelle j'avais pu toucher de A à Z à toutes les étapes de réalisation d'une émission radiophonique. Et comme atelier, c'est ma première expérience à la radio, ça a été quelque chose de très mémorable. On a eu des bons intervenants. Ça a été une belle remise en question aussi de notre milieu et de notre merveilleux monde artistique et culturel.
Ben oui, tout à fait.
Et toi, Benjamin?
Ben moi, donc vous avez compris qu'on va se présenter avec nos événements marquants. Moi, je crois que c'était mon entrevue avec Kapwani Kiwanga, qui était en France, et c'était une entrevue préenregistrée. Et je me souviens, j'ai fait ça avec mon fidèle acolyte Marc-Olivier Beausoleil, que je salue d'ailleurs. Et j'ai appris comment faire une entrevue sur Skype, et on a dû modifier des choses dans mon ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça ne peut y croire. Et puis, c'était plusieurs heures de montage audio par la suite. Et c'était toute un apprentissage. Alors, on pourrait continuer.
On pourrait commencer par se présenter. Tu animes depuis de tout début, Benjamin?
Oui, tout à fait. Je suis l'animateur. Charlotte, toi, tu avais...
Idéateur aussi.
Idéateur, oui.
Concepteur, tous les mots qu'on peut...
Oui, Charlotte, toi, tu avais l'émission, la chronique « L'art de se démarquer ». Et oui. Tu vas co-animer également avec moi. Tu as déjà co-animé et puis tu vas continuer.
À quelques brins.
On a également une réalisatrice à l'émission, Manon. Manon Giry. Donc, peut-être on pourrait continuer avec toi pour le tour de table.
Oui, alors moi, ça serait le moment où j'ai fait la mise en onde, qui était aussi une des premières émissions où j'étais présente, et je n'avais jamais touché la console de CIBL, et ça a été toute une aventure. Mais c'était quand même intéressant de voir que les fichiers ne partent pas quand on aimerait qu'ils partent. Voilà, mais c'est aussi les joies de faire une émission en direct.
Ben c'est peut-être un bon moment pour faire la transition avec Geisha Armandaris, notre metteur en onde.
Allô, allô?
Est-ce que tu as un événement marquant, un moment qui était resté en mémoire?
Alors moi, je dirais que ce serait le segment création. Alors j'ai oublié le nom de l'artiste, mais celle de l'artiste qui pelait l'oignon. J'avais trouvé ça très original.
C'est l'artiste Caroline Spencer.
Merci Michel, voilà, tout à fait. Et j'avais trouvé ça très original et très, très, très rigolo, comment les gestes étaient très, très précis. Et voilà, moi je pense que c'est un peu le souvenir un des souvenirs marquants.
Ben justement, on préfère la transition avec Michel Lacombe.
Allô, allô. Moi, je pense c'est certain que je fais la coordination des segments création. Fait qu'il y a beaucoup de moments mémorables et marquants à l'intérieur de ça. Mais je pense que j'irais dire un des moments marquants pour moi, c'est quand j'étais chez moi. Alors, j'étais même pas en onde avec vous et j'écoutais la chronique sur la politique culturelle que Charlotte, je pense, c'est toi qui l'avais donnée. Et j'étais énormément émue et heureuse de voir que ce contenu si important qui nous touche tous les artistes à Montréal et au Québec, mais qu'on n'en parle pas. Puis j'étais vraiment heureuse de voir qu'on donne la place à avoir des conversations, pas juste d'ordre critique en ce qui concerne les pratiques des artistes, mais aussi les enjeux politiques qui nous entourent.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Je suis contente que ça t'ait interpellée. On pourrait peut-être continuer avec Lisa. Tronca, notre chroniqueuse.
Oui, j'ai pris une petite pause cette saison, mais j'ai quand même fait l'émission spéciale Art et Archives avec Anne-Marie Tripogny, qui n'est pas là ce soir, mais c'était un bon moment pour moi. Aussi, pas à l'émission seulement, mais aussi le avant, la préparation, les entrevues, les rencontres avec les artistes, puis toutes les entre-deux, là, entre les émissions avec vous, les rencontres comme ça, c'est les moments marquants pour moi.
Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'émission, il n'y a vraiment pas juste parler au micro. Hein? Il y a beaucoup de coordination, de création, d'idées. Puis une autre personne qui a énormément d'idées, sans qui l'émission ne serait pas la même, c'est Sylvain Aubé.
Bonjour.
Notre homme à tout faire un peu à l'émission. Donc, ton moment marquant?
Oui, ben écoute, il y a tous ces commissariats musicaux. Ça a été vraiment génial de pouvoir mettre ça en ligne. On espère les mettre massivement là, sur le site Internet bientôt sous forme de mixtape. C'est un projet à long terme. Mais mon moment marquant, je crois que ça a été quand on a fait une chronique sur l'archéologie sonore et puis qu'on parlait du véhicule press. Et finalement, on se rendait compte qu'on était juste à côté. Donc, après l'émission, on est sorti, on a pris une photo devant. Cette photo-là est encore sur le site de Radio Atelier. Donc, ça m'avait touché comme moment. Et puis, voilà.
Alors, continuons avec Elisabeth Recure.
Ah, mais Elisabeth qui n'est pas
qui
là.
Est là-bas. Non, qui
Elisabeth
pas là
qui n'est pas là. En fait, je viens de réaliser ça, qui manque à l'appel. Elisabeth, on te salue, qui a une chronique sur l'art public. Oui.
Ah, OK. Bon, mais dans ce cas-là, on la salue et on pourrait continuer à ce moment-là avec Odile Joron, notre chroniqueuse.
Oui, allô?
Oui, tout à fait. Qui a justement une chronique sur l'art public, un peu avec un...
L'art public éphémère, tout ce qui est dans l'espace public, mais c'est ça, qui s'inscrit de quelques heures à quelques semaines. Moment marquant, je pense que c'était ma chronique de la semaine dernière avec les Sabines. J'ai beaucoup aimé faire la déambulation dans Saint-Henri puis faire le montage. Donc voilà, c'était mon moment marquant.
Oui, mais on aime faire du montage à l'émission, même si c'est beaucoup de travail.
Oui.
On pourrait continuer justement à la gauche, à ta droite plutôt, avec Pascal, qui t'as déjà fait également du montage sonore à l'émission.
Oui, je ne suis vraiment pas experte en la matière. Ce sera chose à peaufiner et améliorer dans les saisons prochaines. Mais disons que le côté technique aussi, ça fait partie vraiment du challenge. Hein?
Ouais,
si je peux me permettre l'anglicisme. Là. Mm-hmm. Mais
on prend des gens avec toutes sortes de niveaux d'habileté technique. Mais ton moment marquant à l'émission, c'était quoi?
Ben, mon moment marquant, c'est quand j'ai parlé de la création de Lara Kramer, Wendigo, et où il y avait une performance qui avait lieu en même temps, un segment création. C'était, je ne me rappelle plus, Michel, le nom de l'artiste.
Philippe Goulet-Letarte.
Exactement. Il faisait juste répéter éthique, le mot éthique. Éthique, éthique. Et la pièce de l'artiste Lara Kramer était quand même assez chargée politiquement aussi, parce qu'elle avait un regard critique sur la figure du Wendigo et de la surconsommation. Ça avait tout changé ma chronique, avoir su qu'il allait avoir cette intrusion, et là je mets des guillemets pour les auditeurs et auditrices qui ne le voient pas, je l'aurais abordé tout autrement. Et ça m'a apporté beaucoup de réflexions sur le travail de chroniqueur ou même de critique quand il y a ce genre d'intervention-là qui est faite. Mais je dirais aussi tous les échanges que j'ai eus avec les artistes et que j'ai eus aussi avec mes collègues d'atelier. On grandit beaucoup quand on travaille dans ce contexte-là. La radio, c'est pas un médium qui est facile, mais c'est pas non plus le direct aussi. C'est quelque chose qui s'apprend, puis quelque chose que tu dois faire sur le long terme là, pour vraiment développer des techniques et t'améliorer comme intervenant, en fait.
On va avoir l'occasion d'en parler beaucoup aujourd'hui du médium de la radio, oui. Ce fameux médium. En parlant d'improvisation, de moments imprévus dans l'émission, on en a eu beaucoup grâce au jeu de notre chroniqueur Gabriel Beck.
Salut.
Salut.
Mon moment préféré, c'était aussi en fait la perf de Philippe Goulet-Letarte, éthique. Ça m'a questionné, ça a poussé un peu mes limites dans la chronique. Mon deuxième moment, c'était celui où on m'a offert la possibilité d'animer une spéciale Make Sense. Et donc, parce que j'ai l'impression qu'Atelier, c'est aussi un lieu où on peut tester des choses et c'est assez ouvert. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pu permettre ça.
Ben oui, tout à fait. Et puis, tester des choses, inviter des gens. On a également avec nous des personnes qui vont bientôt faire partie de l'émission. On commence justement avec Mathieu Robillard. Robillard, bonjour.
Hey, bonjour, Benjamin. Écoute, lorsque j'ai su que j'allais m'impliquer à notre émission Chérie Atelier, je me suis tellement senti heureux. J'ai voulu en parler, c'est sûr, à Facebook, en parler à Twitter. Et puis, je dois communiquer mon bonheur aussi à des êtres humains. Donc, vient le moment où je téléphone à qui donc? Bah, Benjamin, devine à qui.
Ben, bien sûr, à ta mère.
Hein. Ah, voilà, Benjamin, j'ai appelé ma maman. Et Benjamin, laisse-moi te dire que nos mamans sont toujours là pour nous, hein? Ah, elles sont là pour notre bien-être.
La mienne, c'est l'auditeur principal, je crois, à l'émission.
Et quel fut son commentaire? Hein? Là, c'est moi qui pose des questions, Benjamin. Quel fut son commentaire, Benjamin, d'après toi?
Moi, je pense qu'elle a dû être heureuse pour toi.
Oui. Ah! Et non, Benjamin, elle m'a traité d'imposteur. Peux-tu, hein? Et moi qui est tellement heureux d'être avec vous, mais ma mère vient de m'apprendre que je suis un imposteur. Vous avez devant vous un imposteur. Et là là, Oscar Wilde, hein, il disait qu'un bon ami te poignarde toujours par devant. Ben, je te dirais qu'une maman aussi.
Wow! Je ne connaissais pas cette citation-là d'Oscar Wilde, c'est bien. Mais oui, le syndrome de l'imposteur, ça nous prend tous, bien sûr. Et dernière personne, je crois, deux dernières personnes à être parmi nous. Sonia Slavatonova. Hey, on va se pratiquer.
Allez, hein. Encore une fois.
Oui, d'accord. Alors, Sonia...
Slatanova.
Slatanova et Lou Neva Slatanova. Voilà, bonjour.
Bon, mais c'est très simple, hein, comme ça s'entend.
Ben oui.
Comme ça s'écrit. Ça se dit comme ça s'écrit. Bon.
Alors, oui, alors, bientôt coordonnatrice de segment création.
Coordonnatrice animatrice aussi, à partir du 1er juillet. Donc là, c'est ma première fois dans les studios avec vous, parmi vous. Donc, je suis très contente, je rencontre toute l'équipe. Et la première on air, ça sera le 1er juillet, avec un artiste qui va faire une performance surprise.
Mm-hmm, oui, puis vous avez une anecdote marquante de votre parcours à Atelier également?
Pour venir ici, oui, éventuellement.
Mm-hmm. Lou, qu'est-ce qui est arrivé? Lou Neva?
Dans l'autobus.
Dans l'autobus, ben en fait... on était en retard, puis là, il voulait pas nous laisser sortir. Alors, on a fait croire que j'avais mal au ventre pour nous laisser sortir.
On a joué la comédie, mais parfaitement. Okay. Et plus on insistait pour qu'il ouvre les portes dans des espèces de coins bloqués de trafic, plus on était malades, en fait, les deux. Donc, on est sortis de là, on était soulagés. On a dû comme se retenir de pas courir. On a comme feinté le temps qu'on était encore visible. Alors, on s'est mis à courir, on a traversé la place des arts.
Ben, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire de la radio? Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent. Et bien, merci à tous et à toutes d'être parmi nous.
Pour tous ces beaux témoignages.
Mm-hmm. Alors, on va enchaîner avec une première musique. Hein? Alors, c'est moi qui ai fait la sélection musicale aujourd'hui. Le thème, c'est le thème de l'amour. Hein? Parce que vous le savez, on est tous bénévoles ici. On décrit souvent l'émission comme étant du travail de l'amour. Alors, c'est à la fois une déclaration d'amour à mon équipe, mais aussi une introspection critique par rapport à la place que cet amour a pour nous pousser à faire certains choix et pas d'autres. Alors, comme le décrit si bien Judith Butler dans son texte « Doubting Love », et je me suis permis de traduire la citation, « L'amour, ce n'est pas un état, une émotion, une disposition, mais c'est un échange, injuste, compromis par l'histoire et par des fantômes, par des deuils qui sont plus ou moins lisibles par ceux qui tentent de voir une autre personne avec leur propre vision imparfaite. »
I look and stare so deep in your eyes, touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go, call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking all crazy right now. Your love got me looking all crazy right now. Got me looking all crazy right now. Your touch got me looking all crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you'll page me right now. Looking so crazy. crazy, love got me looking, looking so crazy, love. Oh,
vous écoutiez Anthony and the Johnsons, accompagnés par l'Orchestre métropolitain néerlandais. Ils interprétaient la célèbre chanson « Crazy in Love » de Beyoncé en 2010.
Pour chaque passion qu'on nourrit dans une vie, réside une vocation, une raison d'être pour laquelle on est « crazy in love », follement en amour, comme la pièce qu'on vient d'entendre. Donc, on vous demande, à vous, collaborateurs, auditeurs, qu'est-ce que l'émission aime et pourquoi on aime autant l'émission Atelier? Quelle est la raison d'être de l'émission, selon vous?
Oui,
Lisa, je voudrais peut-être donner une plateforme, mais peut-être ça va enchaîner sur la question qui s'en vient sur pourquoi la maison radiophonique, mais je pense que c'est pour donner la voix aux artistes qu'on n'entend pas souvent dans le milieu des médias, pour aussi avoir une place à la recherche de ces pratiques-là, le point de vue critique, commentaire critique. On est quand même tous presque des spécialistes dans certains domaines liés aux arts visuels ou aux arts de la performance, tout ça. Donc, c'est comme un autre moyen de véhiculer cette recherche-là qu'on fait dans, des fois à l'écriture ou des choses comme ça.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, Sylvain Aubé.
Il y a un plaisir de donner. Donc, tous ces artistes-là, on est content de leur donner un relais supplémentaire pour les faire découvrir à d'autres. Mais il y a un plaisir de recevoir aussi, très grand, parce qu'on a beau faire le tour de toutes les sources et on va toujours découvrir des choses extraordinaires. Donc, nouveau musical, moi, même en étant en art sonore, de façon très pointue, j'ai découvert énormément de choses à la radio. C'est un peu mon salaire.
Mm-hmm. Oui, Michel Lacombe, je sais pas si...
Bien, c'est certain, je vais avouer que j'ai une faiblesse pour le segment création, mais plus spécifiquement, je trouve que offrir à des artistes des contextes de diffusion expérimentale, alternative, il faut dire que le segment création a beaucoup d'ouverture. On prend des œuvres qui ont déjà existé comme des explorations artistiques, en fait. Puis l'écho que j'ai de la part des artistes, c'est que c'est vraiment un cadeau d'avoir cette opportunité-là, un peu comme tu avais dit auparavant, d'être imposteur, mais de se permettre de prendre de la place différemment face à notre pratique. Puis je pense Atelier offre vraiment ça. Puis de la part des artistes qui ont participé, j'ai vraiment eu des échos que ça a vraiment aidé la réflexion au sein de leur pratique. Pas pour dire qu'ils vont tous faire des œuvres sonores ou à la radio maintenant, mais je pense que l'exercice de réfléchir autrement et d'essayer de travailler autrement au sein de notre processus artistique est vraiment quand même rare, malheureusement, dans le milieu des arts contemporains et très apprécié dans le cadre d'Atelier.
Mm-hmm, oui.
Mathieu Robillard?
Oui, pour moi, c'est tout simple, c'est de démocratiser l'art, le rendre accessible, le rendre intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Puis, je crois que ça résume bien également ce qu'on tente de faire avec mm-hmm. l'émission. Puis, une des discussions qu'on aimerait poser dans ce premier segment en question, c'est en fait la vocation de l'émission à... qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette émission-là? Hein? Puis, est-ce que c'est quelque chose... Quand j'ai créé l'émission, j'ai tenté de créer quelque chose où tout le monde pouvait un peu embarquer puis se l'approprier. Donc, je vous envoie la question un peu à vous. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette émission-là?
Bien, je peux dire que pour moi, là, je prends beaucoup de place, fait que j'ai arrêté après ça, mais pour moi, c'est certain que je connaissais pas trop la radio, j'en écoute chez moi et tout ça, mais j'ai pas une relation avec ce médium-là. Et je pense que pour moi, j'ai vraiment apporté un regard d'artiste puis de travailleuse culturelle qui fait une programmation en performance et en art d'action ici. Fait que justement, la capacité d'inviter un artiste pour éplucher un oignon ou manger une salade ou faire une installation en vitrine, je trouve que tout ça... est peut-être possible. Puis je pense pour moi, le cadre de la vocation, puis ce que Atelier apporte à la radio, c'est de penser à la radio pas juste comme un médium sonore. Oui, ça passe par le son et la radio, mais je pense qu'au-delà de ça, ça reconnaît plus profondément des pratiques qui sont soit axées dans la recherche ou même matériellement, puis ça permet une présence à l'intérieur de la radio pour ces manifestations-là.
Mm-hmm. Oui, Pascal mm-hmm. Tremblay?
Bien, moi, il y a un mix entre l'objectif de l'émission et mes objectifs aussi personnels. Donc, il y avait quelque chose que je voulais mettre au défi, mais on met aussi un peu au défi notre profession d'infiltrer le médium radio de cette manière-là. Moi, qui consomme énormément de radio, de chroniques culturelles, surtout, je me questionne vraiment beaucoup sur la place, justement, qu'on donne aux spécialistes en arts visuels, en arts vivants. J'en entends pas beaucoup, j'en entends pas souvent. Je les entends pas nécessairement de la manière non plus dont... Je parle pas nécessairement de ce qu'un professionnel s'attend à entendre, mais de ce qu'on s'attend à entendre de la pratique d'un artiste, mm-hmm. de l'espace, de la création. Ça, c'est très, très rare dans les médiums que je consomme. Puis, il y avait aussi cette idée-là de créer une communauté aussi. Moi, je suis constamment avec des... Je veux dire, le Musée d'art contemporain est tout à côté. On a le Belgo, on a le 222 juste en haut de nous. D'avoir ici à CIBL une place pour les arts actuels, bien, il me semble que ça allait de soi. Donc, je pense qu'on a une belle vitrine, un beau pignon sur rue pour exposer la création d'une autre manière. Puis oui, ça passe par les ondes radio, mais on s'entend qu'on a la vitrine ici. Et peut-être que d'avoir une émission devant public... À un moment donné, là, on a un petit public qui passe comme ça, qui attend l'autobus ou qui attend pour voir les spectacles, mais peut-être de convoquer un public aussi. C'est les studios, ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
Oui, c'est quelque chose qu'on a parlé au début de l'émission puis qu'on aimerait également continuer à faire, continuer à essayer de faire.
Oui. Oui,
oui. Sonia? Oui.
Oui, justement, moi, je trouvais intéressant la particularité architecturale du bâtiment, en fait, du studio qui se trouve comme ça, comme dans une boîte de verre. Et effectivement, du fait que beaucoup d'artistes sont des artistes qui viennent de la performance, donc ils ont une pratique spatiale, donc d'intervention, donc soit dans des espaces publics, des galeries, mais quand même une pratique qui implique le corps, l'espace et le temps. Et je trouvais ça vraiment... en tout cas, pour moi, c'est une piste de réflexion pour les prochains segments que j'envisage de faire avec vous.
Donc, toute l'idée de l'architecture dans laquelle on se trouve, l'espace, est-ce que ce médium qu'on utilise, qui est la radio, est l'idéal pour rassembler cette communauté-là qu'on a retrouvée? Est-ce qu'il y aurait une autre manière de rassembler cette communauté-là, selon vous, que le médium de la radio?
Manon, j'y
vais. Oui, je m'empare du micro. je ne sais pas si le médium radio est le plus pertinent dans le sens où ça reste un médium très isolé. On ne sait pas qui nous écoute, on ne sait pas... On sait qu'on le fait pour nous, parce que ça nous plaît aussi de faire découvrir des artistes, mais derrière, on ne sait pas du tout quelle est la réponse en fait, d'un public. C'est peut-être ça aussi la beauté de la radio, parce qu'en fait, comme on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne change pas ce qu'on fait en fonction du renvoi qu'on peut avoir. Donc voilà. Après, pour ce qui est des arts visuels, c'est sûr que ça reste un défi de le faire à la radio.
Oui, parce que l'art est tangible, on le voit, mais on ne peut pas le rendre à la radio comme on voudrait par rapport à l'art sonore. Lisa, tu avais une intervention?
Oui, bien là, je vais rebondir sur ça, mais je pense qu'on a réussi à montrer des pratiques qui n'étaient pas nécessairement seulement visuelles. Je pense qu'il y a une pluralité, puis justement... aussi confronter le sonore dans certaines interventions que Michel a apportées. Donc, les artistes, quand même, ont fait le défi là, de vraiment adapter leurs pratiques ou justement confronter le médium radio. Puis sinon, ce que j'allais dire avant, mais c'était qu'en tant que chercheuse ou en tant que chercheur, bien, je pense qu'on a l'habitude d'écrire, on a l'habitude d'avoir un autre genre de rapport à la critique ou à la réflexion. Non? Fait que moi, j'ai trouvé vraiment ça rafraîchissant d'avoir un autre genre de médium de réflexion. Puis aussi d'avoir aussi un dialogue plus possible qu'un texte écrit.
Oui, tout à fait. Moi, l'idée de faire de la radio, en fait, est venue en écoutant « Plus on est de fous, plus on lit », une émission que j'adore, mais qui représentait extrêmement mal les types d'artistes et de pratiques que j'aimais. Je me dis, mais là, OK, ils parlent de poètes, ils parlent de musiciens, ils parlent de plein de monde, mais les artistes en art visuel, les artistes de la performance, les artistes en art sonore expérimental, ben, c'est tout du monde qui lit, ça aussi. C'est tout du monde qui sont capables de parler de leur pratique. Pourquoi ils sont pas à Radio-Canada? Hein? Pourquoi ils sont pas là? Bon, heureusement, CIBL était là pour nous accueillir. Hey, c'est déjà ce qui met fin à notre premier segment. Question?
Déjà?
Ben oui. Moi, je propose qu'on aille écouter une autre pièce de ma sélection musicale. On va avec une pièce tirée d'une œuvre publique diffusée sous les ponts de Glasgow. C'est une vieille mélodie écossaise qui raconte l'histoire d'un marin qui se noie et qui revient à la vie pour dire un dernier adieu aux personnes qui lui sont chères. Alors, on va entendre l'artiste Susan Phillips et qui va chanter trois fois la même version de cette complainte-là, diffusée en même temps. Sous trois ponts.
commence avec, on arrive avec la deuxième intervention qui...
Oui, oui, deuxième intervention.
Alors, deuxième thématique de la soirée, qui est quelle est la place que notre émission pourrait prendre dans l'univers culturel et médiatique québécois? Est-ce que quelqu'un qui voudrait s'avancer, briser la glace? Pascal, je crois que tu voulais mentionner...
Oui, en effet. Bien, je pense que la place d'atelier est nécessaire. Il faut qu'elle prenne cette place-là. Personnellement, moi, j'attendais quelque chose qui ressemblait à ça. Je me suis beaucoup questionnée et j'ai fait des recherches sur la distinction qui existe entre le rôle d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse et le rôle d'un critique ou d'une critique d'art. Puis, je suis un peu dans la zone floue. Des fois, on me demande, est-ce que tu es chroniqueuse culturelle? Est-ce que tu es chroniqueuse artistique? Est-ce que tu es critique? Surtout que moi, je couvre surtout le théâtre ou les arts vivants, les arts décloisonnés et tout ça. Et j'arrive pas encore à... J'avouerai que je me trouve un peu située entre les deux parce que ce que je trouve important, c'est surtout de discuter avec les artistes pour pouvoir avoir vraiment et ma réception de l'œuvre, mais aussi l'objectif de l'artiste ou du moins les questionnements qu'il y avait ou qui a été apporté ou abordé dans son travail. Donc, d'apporter vraiment les deux facettes. Reste à savoir si, au gré de mes chroniques, j'arrive à bien passer le message puis à bien donner, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté peut-être un peu difficile de capter, de parler des arts visuels et tout ça à la radio, alors que c'est un médium auditif et non pas visuel. Mais je pense que ça se doit d'être un défi qu'on doit relever, en fait, d'arriver à rendre ça concret et de donner image, en fait, à travers le médium radio. Mm-hmm.
Tout à fait. Et aussi, en étant journaliste culturel, on confond, comme tu disais au début de ton propos, critique ou journaliste, c'est deux rôles complètement différents. Ça demande un niveau de spécialisation beaucoup plus élevé, selon moi, pour faire une critique. Mais ça reste deux rôles qui sont encore confondus, je crois. Donc, ça demande une plus grande définition prochainement. Est-ce que Manon, tu voulais rebondir là-dessus?
Ben justement, je me posais la question. Pascal en discutait, mais je voulais savoir ce que ça voulait dire vraiment être chroniqueur ou être critique. Puis je voulais juste qu'elle en parle plus, en fait. Parce que moi, ça m'intéressait, cette distinction, parce que j'ai comme vraiment, vraiment beaucoup de mal à voir la différence.
Bien, en fait, c'était une nuance qui était vraiment plutôt légère. Puis tout à l'heure, on parlait du syndrome d'imposteur. Et je dirais que des fois, je pense que la définition, et là, je parle pour moi, de se qualifier de chroniqueur, chroniqueuse, plutôt que de critique, je pense que, en ce qui me concerne, ça vient d'un syndrome d'imposteur. Je pense pas être, et pourtant peut-être à tort, mais être suffisamment spécialiste dans le sujet dont j'aborde pour dire que je suis critique, ou des fois on veut pas non plus avoir cette étiquette-là qui peut peut-être paraître un peu péjorative parfois. Donc un critique, c'est quelqu'un qui va justement peut-être pas toujours donner, je sais pas comment dire... qui va avoir une certaine approche ou une analyse qui est peut-être pas nécessairement toujours, qui reflète pas nécessairement toujours adéquatement la réception du public. En fait, c'est ce que je considère quand t'es chroniqueur, c'est peut-être que t'as une notion un peu plus approfondie de la réception que le public peut avoir. Donc, tu te mets plus d'un côté public non initié, tandis que quand t'es critique, tu dis oui, mais par rapport au milieu, par rapport à la... Je le définirais comme ça, là, rapidement.
Oui, mais ça, c'est une définition qu'on va prendre. Sonia, Sadanova?
Oui, donc, en fait, on parlait tout au début, donc, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qui nous manque, de quoi est-ce que la couverture des arts visuels manque, ou qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Moi, je trouve que j'aime beaucoup les entretiens de fond avec les artistes. On n'a pas souvent accès à la démarche, on n'a pas, ou alors on va interviewer un artiste, mais c'est juste dans le cadre d'une exposition, d'un événement, et puis pouf, et on parle comme de l'œuvre présentée. Mais j'aurais moi une envie d'entendre ou d'avoir l'occasion de faire un entretien un peu plus de fond avec un artiste qui recouvre quelques années de pratique ou qui parle d'une œuvre spécifique, mais vraiment à fond. Donc, je trouve que ça manque aussi beaucoup dans le paysage audio.
Oui, tout à fait.
Des sujets plus intemporels, oui, qui sont moins ancrés dans l'actualité, si je comprends bien.
Et plus intimes, peut-être plus personnels. Oui. Ben, moins ancré dans l'actualité de l'artiste.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être ancré dans l'actualité, en fonction de l'œuvre, mais des œuvres.
Oui, Michel Lacan.
Oui, mais tu sais, pour faire écho à ça, en fait, je trouve que on a souvent la chance de faire la rencontre de la réflexion sur l'art dans un cadre de promotion, en fait. Fait que souvent, c'est justement attacher une exposition ou attacher un projet, on veut que le monde vienne. Puis je trouve qu'en fait, atelier est vraiment, c'est dans l'atelier, on est vraiment plus intéressé dans le processus. C'est certain que des fois, c'est attaché à des diffusions publiques, mais je pense que l'émission a une ouverture vers d'autres processus puis d'autres états de l'artiste professionnel, puis ça, je valorise beaucoup ça. Puis pour faire écho, Pascal, moi, j'irais aussi plus loin puis dire comme on pourrait critiquer que à Atelier, il y a peut-être une confusion entre le rôle des personnes. Est-ce qu'on est critique? Est-ce qu'on est juste un humain qui a vécu une expérience qu'on veut partager? Mais en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder comme une force. En fait, les artistes, de plus en plus, vont vers des processus interdisciplinaires ou ce qui pige dans plusieurs modes de production pour en faire une pratique. Puis je pense ici, peut-être, on peut se regarder un peu de la même façon qu'au lieu d'avoir une formation officielle en journalisme, mais on est des travailleurs, travailleuses culturelles, on est des artistes, on est des gens qui baignent dans le milieu, qui ont des impressions, puis on veut ouvrir le dialogue alentour de ça. Puis moi, je vois vraiment ça comme une force puis une particularité, puis peut-être quelque chose à aller creuser encore plus profondément avec ce côté-là, plutôt expérimental et non défini même, qui nous met en solidarité avec les artistes puis les pratiques qu'on couvre.
Ben oui, tout à fait. Puis on a des chroniques un peu expérimentales, là. Je pense à toi, Gabriel, avec la chronique Make Sense. Également, on offre une place de diffusion à des artistes. Le segment création, je crois qu'il y a plusieurs artistes qui ont fait leur première œuvre sonore, leur première œuvre radiophonique comme ça. Ça m'amène peut-être à penser à notre public, justement, à cette communauté-là qu'on tente de créer. Je ne sais pas si vous aviez une idée du public pour lequel vous avez. Oui, Lisa Tronquin.
Mais avant, j'ai une réflexion qui m'est venue un peu, la distinction chroniqueuse ou journaliste culturelle et critique. Mais je pense que on n'a pas la prétention de comme niveler par le bas parce que c'est des gens qui pourraient pas connaître. Je pense que on est capable de parler avec un langage qui est quand même spécialisé en visuel, puis que les gens y comprennent, parce que ma famille vraiment qui vont pas lire les textes que je vais écrire ou mon mémoire ou tout ça, mais sont capables de comprendre les chroniques qu'on fait ici. Puis les gens, je pense que des fois dans des médiums plus grand public, on pense qu'il faut niveler par le bas, mais je pense que notre public est capable quand même de comprendre les entrevues qu'on fait ou les chroniques qu'on fait. J'avais ça à dire.
Ben oui, tout à fait. Puis ça va rejoindre justement cette notion-là de public. Alors, pour qui vous faites la radio quand vous faites une chronique, quand vous pensez, quand vous coordonnez tout ça? Est-ce que vous avez une personne en tête? Ou une idée? Oui, Mathieu?
Ben, moi, au fond, c'est un rendez-vous doux que je veux. Hein? Donc, je veux rencontrer une personne passionnée, authentique, qui a envie, là... de cette rencontre-là passionnée avec l'art. C'est ça que je veux.
C'est une belle approche, ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une idée? Oui, Michel.
Moi, j'aime ça, en fait. C'est scandale, ce que je vais dire. Mais moi, des fois, j'imagine qu'il n'y a personne qui écoute. Puis j'aime ça parce que je trouve que, particulièrement dans les segments création, ou en fait, même mon propre malaise avec la prise de position publique, malgré mes rôles des fois dans la vie, je trouve que des fois, la radio s'offre vers une certaine liberté parce qu'on ne voit pas le public. Puis c'est certain qu'il y a des gens à qui on veut s'adresser, les gens de notre écosystème, notre milieu, des fois, les gens, en fait, qui ont des opinions un peu même en opposé à les nôtres. Mais moi, j'aime ça quand j'arrive à l'atelier de vraiment venir avec l'optique que il n'y a personne à l'écoute. et qu'en fait, on lance ça un peu dans le vide, comme un cadeau, un peu comme les pratiques furtives, et qu'un jour, quelqu'un, dans on ne sait pas trop quel contexte, va déambuler et tomber sur ce qu'on présente.
Il faut être optimiste et voir que donc c'est vraiment à très, très long terme. Des fois, il y a des gens 20 ans plus tard qui vont nous dire « donc j'ai écouté Hélène Prévost à Radio-Canada, puis depuis ce temps, je fais de la musique expérimentale. » Donc voilà, j'ai confiance.
Sur cette note, merci à tous pour ces témoignages et ces impressions. À venir à l'émission, une conversation sur le bénévolat et notre premier segment gastronomique. Vous êtes à l'écoute de l'émission Atelier sur les ondes de CIBL. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web au www.radioatelier.ca et sur toutes les bonnes applications de baladodiffusion que vous aimez écouter.
Alors, on revient avec nos questions, notre émission anniversaire, un an d'atelier, et on vous dévoile, en fait, encore une fois, que nous sommes tous bénévoles et heureux de l'être, heureux et heureuses. et on voulait parler pour notre dernière question, en fait, où était la ligne entre l'engagement généreux pour notre milieu et l'exploitation par ce milieu-là? Alors, je lance ça. Où est la ligne entre le bénévolat et l'auto-exploitation, chers travailleurs et travailleuses culturelles?
J'ai l'impression que dans notre milieu artistique, c'est... Oui, Pascal. C'est un sujet délicat, hein? On s'entend
tout
que...
Tout petit silence. Oui, un ange passe, comme on dit.
Pardon?
Un ange passe.
Oui, c'est ça, exactement. On sait, pour les auditeurs, auditrices, là, on s'est tous regardés avec des yeux très ronds à se dire « Oh là là, la question qui tue le bénévolat en art ». Dans un contexte comme celui-ci, je dirais, quand on est là à faire nos armes, puis un peu à apprendre sur le tas, si on peut dire, c'est quelque chose qui est accessible, justement, du fait qu'on n'est pas payé, bien, on peut ne pas nécessairement être professionnel, donc avoir cette tribune-là. Mais en même temps, on peut se questionner sur la notion de professionnalisme aussi, la notion aussi de est-ce qu'il y a suffisamment de place pour des personnes comme nous qui avons quelque chose à dire, qui sommes des professionnels dans le milieu. Donc, hein, Sylvain, tu me fais des petits yeux, là.
Il y a une question délicate qui est la question de promotion, autopromotion. Donc, dans le fond, on a notre autocritique à faire aussi. Donc, on est des gens passionnés, on veut vraiment comme partager ce qu'on aime. Il y a toujours cette frontière-là qui est un peu floue. Hein. Bon, donc, je fais la promotion de choses que j'aime. Et puis, donc ouais, donc, est-ce qu'il y a un risque à la radio de faire ça? Donc,
est-ce qu'on est objectif? Est-ce qu'on doit être objectif?
On ne l'est pas du tout, on est complètement biaisé sur ce qu'on veut promouvoir. Mais
qui l'est.
Mais il y a comme une limite, donc il y a comme une limite à ne pas franchir, donc de promotion pure et dure, là, qu'on veut éviter du mieux possible, mais on peut être autocritique.
Puis ça amène également à la question qu'on voulait poser. En fait, c'est quoi les avantages qu'on retire de faire cette émission-là? Donc oui, on fait ça par bonne volonté, parce qu'on aime ça, mais bon, qu'est-ce qu'on retire à faire ça, Manon?
Alors, je ne sais pas ce qu'on en retire, en tout cas pour les autres, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi des espaces qui sont en dehors du monde marchand, ou en tout cas du monde commercial. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, et ce n'est pas du tout dicté par quelque chose de mercantile qui régit quand même l'ensemble de nos vies. Ce serait comme un espace préservé. Après, avec toutes les questions qui se posent, parce qu'en effet, ça reste aussi un peu de l'exploitation, parce que d'autres en retirent probablement un bénéfice. Mais pour ce qui est du bénéfice d'être en onde, c'est quand même aussi un espace de liberté et d'expression qu'on s'offre. Et oui, ça demande un travail derrière.
Et autant on est heureux d'être bénévole et de contribuer de notre temps, ça reste qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Et on a aussi cette expertise-là qui pour laquelle on pourrait être rémunéré. Donc, ça me pose la question. Je pense qu'on a tous été confrontés, en début ou non, de carrière, à jusqu'où on peut accepter d'être payé par service ou par visibilité. Aussi, on se fait souvent dire « Ah, on va vous payer avec une vitrine, une tribune », mais ça reste que... Jusqu'où on peut accepter ça, selon vous?
Michel?
Hey, j'ai des opinions fortes là-dessus. Mais
je savais que ça allait être interpellé.
Oui, c'est ça. Mais il faut dire aussi, je pense que faut pas être, tu sais, ligne dans le sable. Ça, c'est de la... Tu sais, je pense que c'est toujours un peu des deux. Puis quand je pense atelier, pour moi, oui, il y a une grosse charge de travail, mais cette charge de travail-là, elle est partagée. Fait que, tu sais, on met sur pied une émission, puis il y a beaucoup de travail, mais quand que ça roule bien, tout le monde donne un petit peu, puis on finit par faire quelque chose où ce que je trouve de mon bord, au moins, l'investissement résonne avec ce que je peux en sortir. Puis moi, ce que j'en sors, c'est en fait une découverte, une exploration. Je suis toujours surprise par le contenu. Je suis travailleuse culturelle, mais je travaille aussi dans un organisme qui a pas de structure, dans le sens que j'ai pas de bureau, j'ai pas vraiment accès à des collègues régulièrement. Fait que l'occasion aussi de venir puis de parler avec des gens, je trouve ça vraiment stimulant, puis ça m'encourage personnellement à développer mes pensées. Mais c'est certain que je contribue gratuitement parce que je peux faire ça à ma manière. Puis encore une fois, c'est ça une liberté qu'on trouve, que j'ai l'impression que si je me suis pas déjà retrouvée à la radio, c'est parce que s'il y a des contextes de radio payants, en fait, ça vient avec beaucoup de contraintes. Fait que pour moi, c'est toujours une espèce d'échange entre, oui, ce que je reçois concrètement, mais plus que ça, c'est quoi la place que je peux prendre dans le projet? Puis c'est peut-être comme ça une meilleure façon de penser à l'exploitation versus le bénévolat. Je trouve que quand on donne des tâches à des gens qui leur permettent de rentrer en contact avec une communauté, de s'impliquer, de développer un contenu, mais vraiment de faire ça dans le cadre de leur manière, là, tu sais, qui reste assez autonome, ça a une très grosse différence que si, mettons, on déléguait des tâches prédéfinies, puis c'est très strict dans le contenu.
Oui, Gabriel Beck.
Oui, moi, j'ai une question, en fait. C'est une question un peu ouverte. Je me demande quel est l'impact qu'on a aussi, qui nous écoute et comment savoir qui est là, en fait. Et donc, parce que pour moi, c'est comme une école, j'apprends, mais si jamais il y avait un message, des choses à passer, comment mesurer ça? Est-ce qu'on le sait?
On peut faire des manières, il y a le sondage du CRTC, je crois, qu'on peut avoir accès. Il faudrait demander à CIBL plus de détails également. Le Mixcloud qui nous permet d'avoir un certain taux. Je pourrais rentrer dans des détails vraiment techniques, mais je crois que généralement, la meilleure manière de savoir qui nous écoute, c'est les commentaires qu'on reçoit. Les gens à qui on en parle, à qui on envoie l'émission, qui nous font un retour.
T'as-tu quelqu'un au téléphone?
Ça serait leur été un bon moment, hein? Mais je pense que c'est une bonne question également pour parler de l'impact. Moi, Michel a presque tombé.
C'est pas facile. 14, 15, à l'entour de la table.
C'est un sujet très intense pour nous. Très
oui,
émotif.
Lisa?
Ben, j'ai une réflexion sur le fait qu'on est aussi en podcast puis tout ça. Fait qu'on peut quand même avoir une portée en ligne puis voir une réception puis un échange par nos réseaux sociaux ou en voyant qui télécharge en podcast, mm-hmm. tout ça. Puis je pense que ça fait aussi partie que ça s'étend un peu plus loin que juste le moment qu'on est là le lundi à 6 heures, de 6 à 7 heures. Puis qu'il y a comme un... Tu sais, notre public est peut-être là, comme on disait tantôt, dans un an ou dans 6 mois parce qu'il s'intéresse à tel sujet comme la... En tout cas, fait qu'il y a comme aussi les réseaux puis Internet à explorer.
Sylvain Aubé.
Je pense que ça reste une rareté aussi, ce type d'émission-là. Donc, ça a une période de vie très courte. Donc, historiquement, il y a des shows. Un show de moteur, par exemple, était actif. Là. Il est plus en ce moment. Donc, dans le fond, qui d'autre fait ça en ce moment? C'est toujours la question que je me pose. Donc, nous, on le fait, mais s'il y en avait des dizaines, peut-être que là, on pourrait se remettre en question. Mais là, ça a l'air d'être assez unique.
Puis le public aussi, c'est la manière dont on pourrait monétiser la chose si on voulait, parce que ce qui intéresse les compagnies, c'est le public qu'on atteint, le type de public. Donc, en ayant ces informations-là, ça pourrait être une manière de toucher un certain segment.
C'était une question qu'on voulait apporter justement mm-hmm. pendant l'émission. Est-ce qu'on peut repenser le modèle économique de notre émission? Et c'est une question un peu sournoise, mais j'aimerais l'approcher comme une tentative conceptuelle. Sonia?
Je vais poser une question. Est-ce que vous pourriez résumer en 3 mots quel est votre modèle économique pour les personnes qui ne le connaissent pas ou n'en ont jamais entendu parler?
Bonne question. Alors,
pour un anniversaire.
Bien sûr, CIBL est une radio communautaire, c'est une radio de membres. Les personnes qui font des émissions sur nos ondes sont bénévoles et c'est une manière qui permet également d'avoir une indépendance par rapport à des impératifs commerciaux. Alors, c'est en 3 lignes comment je pourrais résumer ça. Mais on est également une petite équipe. On pourrait quitter CIBL, on pourrait avoir approché les venture capitalists de
faire
ce monde.
Moi, je pensais que ça allait dire on peut aller courir puis crier dans la rue au lieu d'avoir une émission puis une infrastructure, mais j'aime la direction dans laquelle tu vas, Benjamin.
Donc,
tout est possible.
Rapidement, 1 minute, peut-être un brainstorm collectif sur différentes choses qu'on pourrait faire pour changer le modèle économique de notre
l'améliorer,
émission.
L'améliorer. Mm-hmm.
Écoute, ça reste extrêmement difficile. Il y a le modèle Patreon qui est qui sont des contributions volontaires. À ce moment-là, c'est vraiment les gens qui donnent par amour pour l'émission. Donc, ils ont vraiment aucune autre incitative qu'encourager.
Moi, j'avais pensé également
c'est des 2$, 3$, peu importe. Mm-hmm.
Prendre les œuvres qu'on diffuse en ondes et les vendre, faire des enchères, des choses comme ça, se les approprier, peut-être même les voler, Mathieu?
Un peu pour surfer sur le modèle de Patreon, d'avoir du contenu exclusif, c'est-à-dire qu'on a notre heure à chaque semaine, mais si les gens veulent plus, et c'est certain qu'ils ont envie d'en avoir plus, d'avoir du contenu exclusif payant.
Mm-hmm. Ça permet aux gens de donner une valeur aussi, à dire pour moi combien ça
vaut. Oui, exactement, oui.
on pourrait vendre des billets pour les gens qui sont en création, pour venir en tant que public spectateur. Il y a 3 sièges ici. On pourrait payer, inviter les gens à payer une billetterie à 3 sièges
très
pour les segments
idée.
Création.
Et avec la vitrine culturelle cher. À côté.
Ben oui, tout à fait, Manon.
Puis également faire payer à chaque fois qu'on cite une institution culturelle. $50 le mot, là, c'est quand même
le
du,
mot clic,
du product mais... placement, je ne sais pas comment
dire. Oui, vendre la publicité.
Placement de produit, voilà, c'est ça.
Lisa?
Mais je vois les dangers de ça, je ne sais pas, là. Je suis comme, ah, je ne sais pas.
Il nous ramène sur terre, Lisa.
Ben oui, tout à fait. C'est tout le temps qu'on avait pour ce petit brainstorm. Alors, si on est des gens intéressés à nous donner de l'argent, vous pouvez nous contacter.
Toujours partant.
Oui. Alors, tiré de sa vidéo « I'm a victim of the song » réalisée en 1995, vous entendiez l'artiste suisse Pipliothyriste qui reprenait la pièce « Wicked Game » de Chris Isaac.
Et maintenant, au segment « Création », on a Michèle Lacombe, notre coordonnatrice, qui va nous présenter une œuvre sur le rituel d'anniversaire.
Oui, bien... C'est une fête quand même, et comme c'est une fête, je me suis dit, ça prend quelque chose pour signaler ça et souligner ça. Faut aussi dire que je suis une artiste et je suis aussi une travailleuse culturelle. Et ça fait toute la saison que je regarde et j'entends les artistes venir en onde et présenter des œuvres performatives et ça donne envie. Alors, je me suis dit, comme anniversaire, je me donne le cadeau de m'offrir moi-même de faire un segment création qui va être en fait une action partagée avec toute l'équipe ici d'atelier. On va être une performance collective d'environ 5 minutes. Benjamin, je pense que tu vas nous dire quand c'est terminé. Et on aura la chance, comme d'habitude, d'en discuter après. Alors, sans plus tarder, je vous présente... en fait, c'est sans titre. Je vous présente l'action. Bonne fête!
Alors, c'était le moment consacré pour la création de la semaine. Et j'accueille Sladji qui revient, qui est venu trinquer avec nous également en studio. Bonjour.
Salut, c'était tellement le fun.
Mais c'est fantastique ça, Michel. Merci pour cette belle opportunité-là.
Ça fait plaisir.
Bonne fête, atelier.
Oui, bonne fête.
Atelier.
En fait, ça m'a intéressée parce que j'ai eu un moment, une fois dans ma vie, où j'étais dans un souper et je connais mal les rituels. On les apprend souvent en étant lancé dedans. Et quand on cligne des verres, en fait, on est censé se regarder dans les yeux. Et j'étais dans une soirée où on était un petit peu saoul et on a perdu le fil et on n'arrêtait pas parce qu'on avait oublié avec qui qu'on avait clingé les verres. Alors, j'ai décidé de revivre ce moment magique et un peu étendu avec vous en studio aujourd'hui.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Puis, sur cette lignée d'onde, si on a un petit peu de temps, j'inviterais les gens peut-être aussi, on parle beaucoup de radio, on parle beaucoup de critiques, on parle beaucoup d'idées, on parle beaucoup de futur. C'est certain, une fête aussi, on fête ça parce qu'on a l'intention de continuer. Mais dans cette moment festif-là, je voulais voir un peu alentour de la table, c'est quoi les autres rituels de fête qu'on a chacun chez nous, dans notre famille, dans notre culture? Même des fois, c'est des rituels qu'on s'auto-crée. Moi, je pense immédiatement à la bascule, qui est comme un autre exemple, peut-être un petit peu moins romantique. Je vois des sourcils. C'est quoi la bascule? C'est ça. Ben, en anglais, la bascule s'appelle « the bumps ». Puis tu prends une personne par les bras et les jambes et tu les fais lever dans les airs une fois pour chaque année de fête. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'idées que vous connaissez, que vous avez vécu chez vous?
Ben moi, à ma fête, vous êtes tous invités, également nos auditeurs et aussi. À chacune de mes fêtes, c'est l'occasion où j'invite tous mes amis pour faire mon party de fête. Ma sœur invite tous ses amis également. Mes parents invitent tous leurs amis et on invite également toute ma famille. On se retrouve environ 80 personnes chez nous à Joliette et c'est on fait soit un michoui ou un épluchette de blé d'Inde, mais c'est rendu fameux dans notre équipe.
Ta fête, es-tu la fin de l'été dans ce cas-là?
Le 16 août, ah. Vous pouvez me donner des cadeaux. Est-ce qu'il y a d'autres rituels de fête? Oui, Gabriel Beck?
Ouais, on imagine dans 10 ans, on raconte une histoire, on en est où dans 10 ans? Atelier, par exemple, dans 10 ans?
Oui, oui, c'est quelque chose qui nous amène à penser à notre propre rituel qu'on est en train d'instaurer ici. Qu'est-ce que ça va se passer dans 10 ans? Mais je serais curieux d'entendre, Sonia?
Oui, les rituels de fête, moi, c'est surtout ceux que ma fille a et puis les amis, ses amis. Puis donc, en fait, il y a un rituel parmi ses amis, c'est vraiment la piñata. Et comme, je ne sais pas pourquoi, tous ses amis sont nés en été ou en avril. Et donc, en fait, Lou est née le mois de janvier, il fait très froid. Donc, cette année, je voulais lui offrir vraiment une piñata l'an dernier. Donc, on a fait ça dans la neige. on a trouvé un arbre dans la ruelle, on a accroché une magnifique licorne pleine de bonbons, il y en avait trop. Et puis voilà, on a fait une piñata dans la neige.
Mm. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres rituels? Oui, Lou. Lou Neva.
Moi, un rituel, c'est le gâteau.
Ah oui.
Il y a toujours des gâteaux aux fêtes.
Tout à fait. Manon?
Oui, ben en parlant de gâteau, moi, ma mère fait toujours le même gâteau, je pense, depuis mes 6 mois. Non, 6 mois, c'est peut-être un peu tôt, ceci dit, mais bref, c'est toujours le même gâteau. Et si ça déroge à la règle, c'est pas vraiment une fête.
Et qui est un gâteau de?
C'est un biscuit que tu coupes en deux, que tu fourres de crème, ah, oui. Puis tu recouvres comme quelque chose d'un peu décadent.
Oui, tout à fait. Je dois dire également que c'était notre premier segment à vocation culinaire à Atelier. Je crois qu'on a oublié de le mentionner. C'est bien dit dans le code d'éthique de CIBL qu'il est strictement interdit de consommer quelque boisson alcoolisée que ce soit dans la station, interdit de boire et de manger dans les studios, sauf pour les émissions à vocation culinaire.
Ou culinaire.
Ah, culinaire, tout à fait.
Mais c'est un nouveau segment.
Oui, et puis on vous invite, c'est ça, à établir votre propre rituel de fête l'année prochaine, à faire partie d'ateliers, à revenir.
Et donc, c'est ce qui met fin à cette 47e émission d'Atelier déjà, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont on a traité aujourd'hui, en fait, ben là, on n'a pas vraiment de sujet, mais ça va être sur... Vous voulez revoir nos émissions, en attendant, ça va être sur atelier.ca. Nous sommes également sur toutes les plateformes de balado-diffusion, sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous écrire. Et on aimerait remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire l'atelier dans le passé.
Alors oui, on se revoit ce soir au Cheval Blanc à 19h30 au 809 rue Ontario-Est.